Oui, tout à fait, Marion. La semaine dernière, je suis monté à bord de la Scilab Mobile, cap sur Saint-Jacques-de-la-Lande et le Parc des Expos, où le magazine L'Étudiant organisait jeudi, vendredi et samedi dernier le salon de l'étudiant et du lycéen. J'ai été reçu par Sherazade Elouari, chargée des relations presse pour le salon, qui m'a fait faire le tour du propriétaire.
Alors en 2021, donc les jeunes présents à Rennes ont eu un salon qui était virtuel et le dernier salon a eu lieu en janvier 2020, donc juste avant le premier confinement en présentiel.
Malgré la crise sanitaire, l'étudiant a tenu à maintenir donc ce salon de l'étudiant et du lycéen.
Exactement, donc l'étudiant a choisi le parti de maintenir ces salons car il y a un réel besoin auprès des jeunes, auprès des futurs étudiants à cause de la crise sanitaire. Les jeunes sont désorientés, il était important pour l'étudiant de les accompagner dans un moment clé de leur orientation avec des informations qui sont essentielles avec tous les exposants qui sont présents, notamment à quelques jours de l'ouverture de la phase d'inscription sur Parcoursup. Donc l'événement était important et devait avoir lieu en temps et en heure.
Au niveau des établissements d'enseignement supérieur, donc, qui est présent sur ce salon cette année ?
Alors les visiteurs qui viennent cette année sur le salon peuvent rencontrer des écoles de commerce, des écoles de management, de mode, d'ingénierie, tout ce qui est numérique également, 3D, jeux vidéo, création de design. Il y a également des écoles de journalisme ou d'architecture, donc le salon est assez 360. Et il y a également le secteur de la santé paramédicale qui est représenté, qui est une vraie tendance auprès des jeunes, qui s'engage davantage sur tout ce qui est nouveaux enjeux sociétaux. Donc il y a une vraie demande auprès des jeunes lycéens ou étudiants qui souhaitent donc s'orienter vers ce secteur qui sera un des secteurs qui recrute le plus en 2022.
Donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un effet Covid du coup quand même ?
Exactement, donc il y a eu un effet de réaction et de souhait d'implication par rapport à la crise sanitaire. Donc les jeunes souhaitent s'impliquer et participer à cette crise donc, qui est mondiale et qui est très impactante pour eux.
Est-ce que les établissements publics et les lycées sont présents cette année sur le salon aussi ?
Alors, donc les universités et les lycées ne sont pas présents sur le salon cette année. Cette décision a été prise mercredi, donc à la veille du salon, par le rectorat qui a décidé par rapport à la crise sanitaire de ne pas déplacer les établissements qui avaient soit des cas Covid dans leur effectif, soit pas assez, soit par peur justement de créer un cluster sur place. Donc par précaution, ils ont décidé de ne pas venir. Par contre, leurs stands sont toujours présents. Il y a des brochures qui sont distribuées aux jeunes visiteurs qui participent au salon et qui peuvent justement s'informer, prendre contact avec eux et participer notamment aux JPO qui auront bientôt lieu. Donc l'étudiant encourage vraiment les jeunes qui souhaitaient s'informer sur ces établissements qui ne sont pas présents, prendre les brochures, prendre leurs contacts et participer aux journées portes ouvertes qui auront lieu notamment en février.
Et du coup, au niveau de la fréquentation, notamment par les jeunes, est-ce qu'il y a moins de monde que les autres années ? Est-ce qu'il y a quand même suffisamment de monde ?
Alors tout à fait, c'est vrai que la fréquentation est réduite par rapport aux années précédentes. Généralement, l'étudiant accueillait à peu près 30 000 visiteurs cette année, donc par rapport à la situation sanitaire actuelle qui est assez sensible. Certains visiteurs ont décidé de ne pas venir, soit par choix, soit parce qu'ils sont cas contact, ce qui est assez fréquent en ce moment, ou cas Covid. Donc la fréquentation est moindre cette année, tout à fait.
Alors, je suis ensuite parti à la rencontre des établissements présents. Et donc, première étape avec trois membres de l'ENSIM, l'École nationale supérieure d'ingénieurs du Mans.
Je suis ingénieur en vibration et acoustique.
Et moi, je suis ingénieur informatique.
Et les étudiants et les étudiantes que vous avez croisés, est-ce que c'est plutôt des gens qui savent déjà qu'ils veulent être ingénieurs ? Voilà, est-ce que c'est des gens qui n'ont pas du tout d'idée de leur orientation et qui viennent un peu chercher des renseignements ?
Il y en a quelques-uns qui ont déjà en tête ce qu'ils veulent faire, mais c'est vrai que la plupart, ils ont vaguement une idée, ils savent qu'ils aiment les sciences et du coup, ils regardent un peu toutes les écoles pour voir ce qui les attire ou pas. Donc c'est beaucoup des renseignements de manière générale qu'on leur donne.
Et donc du coup, donc là, avec le contexte sanitaire, effectivement, vous le disiez, il y a un peu moins de monde. Et on a vu aussi que ça avait eu beaucoup d'impact sur la vie étudiante. Comment l'école, en tant qu'étudiant et en tant qu'administrateur, administratrice, est-ce que vous avez changé votre manière de faire vis-à-vis des étudiants au niveau de l'accueil, de l'encadrement des étudiants, notamment au niveau de la vie étudiante ?
Oui, forcément. On essaye quand même de continuer à faire un peu des événements festifs, mais c'est vrai que déjà le port du masque obligatoire, forcément. Maintenant, on fait tester aussi avant les gens en autotest, avant de venir aux événements. Là, en ce moment, on peut carrément plus rien faire, mais sinon, sur le reste de l'année, on réussit quand même à mettre en place des concerts ou des repas, mais avec en adaptant les gestes barrières, oui.
Et est-ce que c'est les études d'ingénieur, c'est un domaine qui souffre plus que les autres du Covid, ou est-ce que c'est facile de s'adapter ?
Je pense que quand on est à la fac, par exemple, et qu'on ne connaît pas forcément les gens qui sont dans notre promo, ça va être plus difficile parce qu'on va se sentir plus isolé. Nous, on a de la chance dans le sens où, comme on est 5 ans dans la même école, on connaît tout le monde. Donc on va être beaucoup plus entouré. Puis c'est une petite école, donc il y a aussi l'administration qui est derrière nous. Et on ne va pas avoir trop de problèmes à rattraper les cours ou à s'organiser si on est malade. Et on ne va pas se sentir tout seul chez soi derrière son ordinateur. Mais je sais que pour beaucoup d'étudiants, c'est très compliqué parce qu'il y a ce côté vraiment isolé, être loin des structures d'enseignement. Et c'est forcément beaucoup plus dur aussi quand il y a des cours à distance de suivre, de rester, de s'accrocher. Oui, pour certains, c'est très dur.
Moi, je suis Khadija Lebaï, je suis responsable du service des études à l'ENSIM. On est devenu psychologue, parce que tout simplement, comme dit Hélène, la majorité s'en sortent quand même, parce qu'ils sont bien entourés, parce que on est l'ENSIM, c'est une petite école d'ingénieurs, petite par la taille, mais pas par la formation. Mais par contre, je vois de plus en plus d'étudiants qui sont en souffrance à cause du Covid, et ça, c'est nouveau pour nous. Et donc on essaye de les entourer, de les accompagner pour qu'ils puissent continuer et ne pas laisser tomber leur cursus. Mais j'ai eu plusieurs étudiants qui étaient prêts à laisser tomber tout leur cursus, alors qu'ils sont en quatrième année du cursus, quoi. Et c'est dommage. Et oui, beaucoup de souffrance un peu partout, oui.
J'ai également rencontré Jonathan pour l'école 3Axes, qui est une école qui est à Cesson-Sévigné, qui est spécialisée dans la conception graphique des jeux vidéo et des films d'animation.
Je suis responsable pédagogique à l'école 3Axes Institut, donc qui est un centre de formation sur les métiers donc en fait de l'infographie, orienté jeux vidéo et films d'animation. Donc on est à Cesson-Sévigné, donc on est dans la ZI Sud-Est à Cesson.
Est-ce que les gens qui viennent vous voir, c'est des gens qui sont déjà un petit peu au fait des jeux vidéo, qui sont déjà fans, qui sont déjà dans cette culture-là, ou alors vous avez des gens complètement curieux qui ne savaient pas forcément et qui sont un peu tentés par l'aventure ?
Alors, y a un peu de tout, hein, un peu des deux, hein, forcément. Nous, l'avantage de la formation, c'est comme on est des généralistes, quelqu'un qui s'intéresse au domaine, mais qui ne sait pas vraiment quel métier il veut faire, parce que des métiers, il y en a plein. Ça peut être intéressant pour lui parce que justement on leur fait découvrir pas mal de choses, et en fait c'est en leur faisant découvrir ces choses là qu'ils vont développer des affinités pour tel ou tel domaine, pour tel ou tel métier, et en fait c'est à eux, en fait, on les pousse vraiment à approfondir, à s'intéresser. De toute façon c'est des métiers passionnés, hein, donc faut être curieux, et donc voilà, c'est eux qui vont pousser la chose. Donc voilà, après on a des gens qui viennent de tous horizons, en fait, et justement on aime bien cette multi c'est un milieu assez multiculturel, et c'est ça qui nous intéresse. Voilà, on a des gens qui sont plutôt techniques, donc ils vont plutôt s'orienter vers la programmation, des gens qui sont plus justement graphistes, ils vont plutôt faire tout ce qui est graphique, en fait. Nous, ce qu'on demande juste aux étudiants qui souhaitent rentrer, en fait, c'est d'avoir justement cet intérêt pour la création. Il ne faut pas être juste consommateur de jeux ou consommateur de films, en fait, parce qu'entre forcément créer un film, créer un jeu et y jouer, justement, c'est complètement différent. Et ça, on les met tout le monde en garde là-dessus. C'est voilà, c'est pas parce qu'on joue 5 heures par jour qu'on va être un bon infographiste.
Et justement, donc, tu parlais de cette passion. Est-ce que l'intérêt pour ce type-là d'études des jeux vidéo, c'est quelque chose qui a été constant, ou est-ce que depuis plusieurs années, parce que il y a eu le développement des streams, de toutes ces choses-là et tout, est-ce que vous avez pu bénéficier du regard d'intérêt qu'il y a pu y avoir pour les jeux vidéo, et même de la démocratisation, même de la perception des jeux vidéo dans les médias généralistes, etc. Est-ce que ça a donné un petit coup d'accélérateur, ou est-ce que l'intérêt il est quand même constant depuis plusieurs années?
Alors moi personnellement, donc moi ça fait du coup 3 ans que j'ai rejoint le centre de formation. J'ai pas vu de coup de boost justement. En revanche, ce que je me rends compte, c'est que justement là on pourrait croire que par exemple les parents, parce que souvent ils sont jeunes, hein, quand les étudiants qui veulent rentrer ici sont assez jeunes, donc sont toujours accompagnés. Là, on pourrait penser que les parents seraient fermés, justement, le jeu vidéo, voilà, ils imaginent tout de suite leur gamin en train de jouer, en train de flinguer des méchants, tout ça. Justement, ils sont plutôt ouverts, et c'est plutôt, ils voient que ça, de toute façon, ils voient que ça bouge. Ils voient ce qui se passe. Encore une fois, le jeu vidéo aujourd'hui, justement, c'est pas juste flinguer des méchants. On fait appel à ces compétences-là pour plein de choses. Le jeu pour s'amuser, il y a aussi tout ce qui est serious game, l'aide à la formation par exemple. Aujourd'hui, un électricien va apprendre son métier avec un casque VR pour éviter de, plutôt que toucher à des câbles et mourir. Il va plutôt faire ça en VR, donc c'est un exemple. Aujourd'hui, on utilise aussi la VR pour tout ce qui est, par exemple, traitement de la phobie. La 3D, on la retrouve dans tous les secteurs, hein, automobile, architecture. L'autre jour, je regardais un reportage où on a imprimé justement un bec, un aigle qui s'était fait tirer dessus, qui avait pris un coup de fusil. Ils lui ont imprimé en 3D une prothèse, et ça, c'est la même compétence qu'on apprend pour faire un jeu, pour faire un film. Enfin, créer quelque chose en 3D pour derrière l'imprimer,
Alors la VR, pour les novices, je le rappelle, qui est la réalité virtuelle. J'ai également parlé de l'alternance, des formations en alternance avec la directrice de l'ISA, l'Institut supérieur des arts appliqués de Rennes.
Bonjour, donc moi je suis Sonia Lecomte, je suis la directrice de l'ISA Rennes.
Alors qu'est-ce que l'ISA Rennes? Quelle formation vous proposez?
Alors c'est une école d'arts appliqués, donc on forme après le bac des étudiants au secteur des métiers des arts appliqués, à savoir les métiers de l'image avec le design graphique et la direction artistique, et les métiers de l'objet et de l'espace en architecture intérieure design. Donc une double formation et architecture intérieure et design.
Alors vous proposez des formations donc en alternance. Est-ce que l'alternance, est-ce qu'il y a une génération alternance, des générations alternance qui sont en train d'arriver là ces dernières années? Est-ce que ça, l'alternance a un regain d'intérêt quand même par rapport aux formations plus traditionnelles, plus classiques?
Nous, on a une position un peu spécifique en fait à l'ISA, parce qu'on forme des concepteurs et des créateurs. Et former des concepteurs et des créateurs en alternance, ça fonctionne à partir d'un certain niveau d'études. Donc effectivement, nous, on a mis en place l'alternance, mais que à partir du moment où on avait des niveaux master, parce qu'avant, en entreprise, ils ne sont pas sur des projets créatifs, ils vont être plutôt sur des projets, sur des niveaux d'exécution, et ce n'est pas notre but de formation. Donc nous, effectivement, c'est une vraie... C'est une vraie avancée en fait dans l'insertion du marché du travail, hein, c'est sûr, mais à condition effectivement qu'ils aient déjà une bonne formation en initiale au préalable.
En ces temps de Covid, j'ai également interrogé toutes ces personnes rencontrées sur la fréquentation du salon cette année.
Non, j'ai jamais vu aussi peu de personnes sur un salon, d'une manière générale. Hier, il n'y avait vraiment personne, cet après-midi un petit peu plus, mais non, c'est catastrophique là, pour l'instant.
C'est vrai que par rapport aux autres années, il y a beaucoup moins de monde cette année, mais sur le salon de manière générale, il y a beaucoup moins de monde que les autres années.
Alors là, on a appris en fait qu'il n'y avait pas de bus scolaire, donc jeudi, vendredi, c'est un peu plus compliqué. Donc il paraît que on est vendredi, le jour d'affluence, vraiment ça va être samedi. Donc on a pas mal de personnes quand même qui viennent. Donc l'avantage, c'est comme il n'y a pas tous les stands, vu qu'il y a des universités qui ont annulé, le stand est peut-être aussi un peu plus visible et du coup les gens viennent directement nous voir.
Et au stand des universités donc désertées, j'ai rencontré Fanny et Hermine, étudiantes en terminale.
Alors est-ce que vous êtes venues aujourd'hui sur le salon, est-ce que vous savez déjà un petit peu ce que vous voulez faire, ce qui vous intéresse, ou alors vous êtes venues vraiment parce que justement vous savez pas du tout quoi faire?
J'ai une idée de où je veux m'orienter, mais après il y a des écoles que je connaissais pas qui faisaient les mêmes choses, donc...
Tu veux faire quoi du coup?
Du coup c'est les bachelors en management international surtout. Et sinon du droit ou du commerce, quoi, dans tout ça.
Donc t'as trouvé quand même un petit peu ton bonheur?
Ouais, ça va, je suis dans la bonne voie.
Et toi, du coup?
Du coup, moi, je sais que je vais m'orienter vers le commerce, mais en fait, j'ai plusieurs propositions, c'est-à-dire que j'hésite entre une classe préparatoire ou un BUT ou même une école de commerce. Sauf qu'en fait, les IUT, ils sont pas là avec le Covid, donc c'est un peu compliqué. Les lycées, pareil, pour faire les classes prépa. Après, je me suis renseignée au niveau des écoles de commerce, c'est assez intéressant. Et voilà, je suis venue du coup pour savoir tout ça.
Alors du coup, tu parlais des lycées. Est-ce que du coup, votre lycée, ils vous ont conseillé de venir justement ?
Oui, même que bah, quand on dit qu'on va au salon de l'étudiant, ils nous disent que c'est la raison valable, quoi. Ils nous encouragent même à y aller pendant les cours. Donc ils sont plutôt pour.
Et en général, à part du coup le salon d'étudiants, est-ce que en général, du coup en tant que lycéen, lycéenne, vous trouvez qu'au niveau de l'orientation, vous avez quand même les ressources suffisantes, que ce soit au lycée ou à l'extérieur ?
On a des aides de nos professeurs qui sont là pour nous aider. On a une conseillère d'orientation qui est présente dans le lycée. Mais après, c'est à nous de faire nos recherches sur Internet. Là, Parcoursup a ouvert, la plateforme a ouvert. Du coup, ça nous permet de découvrir toutes les écoles. Et voilà. Mais après, c'est quand même malgré tout à nous de faire nos recherches.
Et, du coup, tu parlais de Parcoursup. Est-ce que... Donc Parcoursup existe encore, il y a eu la réforme du bac aussi donc, il y a quelques années, donc vous êtes dedans, tu parlais des options tout à l'heure. Est-ce que c'est des choses qui vous mettent un petit peu des barrières ou justement ça vous permet de vous ouvrir un petit peu plus et d'avoir plus le choix dans votre orientation en études sup?
Déjà ça nous permet de nous spécialiser dès la première et la terminale. Après ça met des barrières parce que par exemple moi qui n'ai pas de maths, y a plein de trucs auxquels j'ai pas accès parce que il n'y en a plus dans le tronc commun et tout ça, donc ça nous a mis des barrières, mais en même temps ça nous a un peu orienté vers où on voulait, donc c'est 50-50.
Moi personnellement Parcoursup, de toute façon je suis concernée parce que vu que je veux pas faire d'école privée, j'ai pas de concours à passer, c'est sur dossier, et personnellement ça change pas grand chose pour moi toutes ces réformes, parce que de toute façon si je veux faire du commerce, mes spécialités elles conviennent, donc voilà.